crois que le plus grand cadeau du voyage, c'est l'érosion. Il y a une espèce d'érosion qui fait qu'on revient plus mince qu'on était parti, d'une certaine manière plus pauvre. Si on a des plumes, c'est quand même pour les perdre. Hein. Et moi, je crois qu'il ne faut pas du tout se braquer contre cette érosion qui est semblable à celle de la vie, mais enfin qui se fait dans une dynamique qui est plus naturelle, parce qu'il y a le mouvement et le déplacement dans l'espace. Alors je crois que tout voyage muse un peu et comme un galet dans le lit d'un torrent, mais il muse et il m'arrondit. Et le jour où je serai tout à fait rond, je pourrai m'en aller en paix.
Quelquefois, il se passe quelque chose, très souvent, il ne se passe rien. Beaucoup de l'existence est faite de ça. Alors on cherche passionnément l'émoi, l'émotion, le contact avec l'autre. Puis on se dit, mais merde, il faudrait bien que quelque chose surgisse. Mais les choses surgissent, mais il faut vraiment les souhaiter.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il refusait l'étiquette de grand voyageur. Nicolas Bouvier, insatiable arpenteur de monde, préférait se dire flâneur ou même rôdeur, à l'affût de ces rencontres espérées qui seules justifient la déambulation sur une terre inconnue. C'était un autre temps que le sien. Les frontières s'ouvraient, l'étranger étonnait plus qu'il n'inquiétait. Aller à pied, lentement, sac au dos et mains ouvertes, était encore un passeport admis presque partout. Dorénavant, alors que murs et barbelés viennent boucher l'horizon et séparer les voisins, les voyageurs d'antan ont laissé la place aux touristes, soigneusement encadrés et toujours pressés. La peur empoisonne les regards, l'autre est devenu un intrus et parfois même un ennemi. Pour voyager né au vent, il ne nous restera bientôt plus que les livres, éternel espace de liberté et d'inépuisable rêverie. Relisons donc l'Odyssée et embarquons avec Ulysse, ce migrant magnifique qui, grâce à Jean-Pierre Vernant, est devenu pour nous un frère aîné. Ulysse et l'Odyssée, voici qu'Emmanuel Lepage, dessinateur et auteur de BD, grand voyageur lui-même, s'y est laissé prendre à son tour. En 2005, il avait publié « Les voyages d'Anna », imaginant une trame romanesque pour lier ses dessins maritimes et donnant à son héroïne le prénom de sa fille. C'est aujourd'hui pour offrir à son fils un livre portant son nom qu'il publie « Les voyages d'Ulysse », une suite où réapparaît le peintre Jules Toulet, toujours à la recherche d'Anna la voyageuse. Réalisé avec sa complice Sophie Michel au scénario et avec les peintures de l'illustrateur René Follet, ce bel album, édité chez Daniel Maguen, nous fait faire escale dans les ports de Méditerranée à la fin du XIXe siècle, à la suite d'un Ulysse au féminin, Salomé, capitaine de l'Odysseus. Un livre qui nous rend notre âme d'enfant et nous rappelle opportunément qu'on est toujours un étranger une fois franchi le seuil de sa maison. Pour Emmanuel Lepage, c'est un retour à la fiction après ses précédents récits de voyage à Tchernobyl et dans les terres australes. Et aujourd'hui, Emmanuel Lepage est l'invité de l'Humeur Vagabonde.
Sauvage, ouvre tes bras. Il en faut peu pour toi et moi. Prenons racine. L'Odyssée. Ce mot, en français, Odyssée, est simplement le nom d'Ulysse. Ulysse en grec, c'est Odysseus. Par conséquent, quand je dis l'Odyssée, je vais parler à la fois d'Ulysse, Odysseus, et de ce retour d'Ulysse après 10 ans d'errance et 10 ans de combat au pied des murs de Troie. Alors, l'Odyssée, c'est un mot, mais c'est aussi une immense entrée qui est encore, à mon avis, sur pied, par où est passée toute la culture, au moins, du monde occidental.
Bonjour Emmanuel Lepage.
Bonjour.
C'était la voix de Jean-Pierre Vernant en 2006, juste avant sa mort. Sa dernière conférence publique, il l'a donnée sur l'Iliade, l'Odyssée et Ulysse. Quand il dit... Aujourd'hui, l'Odyssée reste pour nous une porte d'entrée sur le monde. C'est ce que vous pensez aussi ?
Oui, parce que c'est intemporel. Je crois que Ulysse, c'est l'homme des voyages, de tous les voyages, et je pense que chaque voyageur a Ulysse quelque part en lui.
C'est votre saint patron, en quelque sorte.
D'une certaine manière.
Vous avez quand même arpenté pas mal la planète.
Oui, mais c'est pour moi le voyage effectivement est essentiel dans ma vie. C'est ce qui me construit, mais c'est pas n'importe quel voyage. C'est un voyage en dessinant. Alors je voyage dans mes créations, bien entendu, mais aussi quand je pars en voyage, j'ai toujours des carnets de croquis avec moi parce que ma façon d'aborder le monde, c'est par le dessin.
Vos derniers albums, Emmanuel Lepage, c'était plutôt des récits de voyages bien réels. C'était les Terres australes, ça a été Tchernobyl. Là, c'est un retour à la fiction. C'est une demande de votre fils, qui s'appelle Ulysse, qui était jaloux de sa sœur Anna.
Disons qu'il a vu effectivement un jour un livre qui s'appelait Les Voyages d'Anna. Et je sais pas, il avait peut-être... je pense pas qu'il avait 3 ans. Et il me dit, et quand c'est que tu fais les voyages d'Ulysse? Alors je lui dis, mais tu sais, le voyage d'Ulysse a déjà été fait il y a bien longtemps. Mais l'idée est restée. Nous avions un titre, d'une certaine manière, mais nous n'avions pas l'histoire. À partir du moment où on a un livre qui s'appelle les voyages d'Ulysse, évidemment, on va parler de l'Odyssée, on va parler d'Homère. Et j'ai pensé tout de suite à m'associer à un ami peintre, illustrateur, donc il s'appelle René Follet, parce que René avait fait dans les années 70 un magnifique livre sur la Grèce antique, un magnifique livre d'illustration qui m'avait vraiment bouleversé. J'ai pensé que c'était juste en fait de lui proposer de travailler ensemble sur un livre autour de l'Odyssée. Nous n'avions pas d'histoire, sinon l'envie de créer un lien entre les voyages d'Anna et les voyages d'Ulysse. Et nous sommes partis comme ça à l'aventure. J'ai demandé à Sophie d'imaginer une histoire qui puisse faire le lien entre mes illustrations et celles de René. Et à la demande de l'éditeur, d'ailleurs, c'est devenu une bande dessinée. mais nous ne savions pas où nous allions. Les illustrations sont arrivées au fur et à mesure des découvertes. Et voilà, d'une certaine manière, la création de ce livre a été aussi une forme d'odyssée. Ouais.
Oui, mais quand je disais que la fiction s'était aussi emparée de vous, un peu comme le voyage, c'est que, en fait, les voyages d'Anna, c'était presque un prétexte. Enfin, il y avait une petite intrigue, mais qui était faite pour présenter des dessins qui existaient déjà. Et c'est à partir de cette intrigue, et d'ailleurs ça a donné un livre assez mince... Et là, c'est devenu un énorme livre, comme si vous aviez été débordé par le plaisir de raconter cette histoire.
Ah oui, tout à fait, en fait. Je pars vraiment dans un livre, et depuis quelques années, avec ces livres de voyage, à l'aventure. Enfin, c'est une sorte d'aventure livresque, extrêmement excitante. À l'origine, nous pensions faire 80 pages, comme les voyages d'Anna. Et puis, petit à petit, des éléments nouveaux sont apparus. L'envie, justement, de mettre les illustrations de René faites il y a près de 50 ans. Et puis aussi, la découverte d'un carnet de dessins préparatoires que René avait fait en 1968, qui, moi, m'a bouleversé, que j'ai trouvé d'une beauté que ça n'avait jamais été vue. Et je suis rentré avec ces dessins-là, et j'ai dit à Sophie, il faut qu'on les mette dans l'histoire, c'est tellement incroyable. Et donc, à chaque fois, on a eu des éléments nouveaux, et qui nous a amené dans des projets graphiques et narratifs qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, je crois que j'aime de plus en plus faire ça dans la bande dessinée. De me dire que j'invente pas un livre, mais le livre existe quelque part, et il faut que je le trouve. Et ça pour moi, c'est très nouveau. Et ce sont les dessins, en fait, qui vont me mettre sur le chemin.
Oui, parce que c'est très étrange, ce livre, Emmanuel Lepage, parce qu'en fait, il y a les dessins qui racontent les voyages de l'Odysseus, de Salomé, et qui embarquent le peintre Jules Toulet. Donc ça, c'est les dessins qui nous racontent cette histoire. Et puis, il y a les propres tableaux que le peintre Jules Toulet fait pour payer son voyage. Et puis, il y a la quête des tableaux perdus d'un peintre à qui vous donnez le nom d'Amon, Kazakhs. Là, ce sont les illustrations de René Follet. Alors, on en parle, mais on a sa voix pour vous.
La bonne rencontre a été celle de la gouache acrylique. À partir du moment où j'en ai découvert les ressources, c'est-à-dire l'emploi de la gouache pouvant aller jusqu'à ressembler à celle de l'aquarelle, excessivement liquéfiée et gardant son caractère de gouache, mais beaucoup plus couvrante que la gouache ordinaire, avec peu d'eau, j'en ai été complètement converti et je ne l'ai plus lâché. Je ne suis plus du tout retourné à la gouache ordinaire. J'ai continué à travailler un petit peu à la plume, encre de Chine, et puis je lui ai préféré le pinceau, qui donne beaucoup plus de souplesse. Et cet album, sur Ulysse, retracera le voyage de retour d'Ulysse, l'Odyssée, qui a de mêmes sujets que nous traiterons chacun de notre côté, et d'autre part, la partie de fiction, qui, elle, sera traitée par lui seul en bande dessinée. Il m'a donné l'occasion de me faire plaisir, c'est certain.
Emmanuel Lepage, c'était la voix de René Follet, donc qui évoque ce projet qui lui plaisait énormément. Et c'est vrai que dans votre livre, il y a cette juxtaposition de styles différents et de peintures différentes, puisque lui, il fait de la gouache acrylique, ce qui n'est pas votre cas. Tout ça se mêle et donne une véritable unité artistique.
Disons que je crois que... Alors c'est très émouvant d'entendre René parler de la technique de l'acrylique, parce qu'il en parle finalement très simplement comme une évidence. Moi, j'ai jamais compris comment il faisait. Pourtant, je l'ai vu travailler. La gouache acrylique est quelque chose que je ne comprends pas. Quand je dis je comprends pas cette technique, c'est que moi je pense à l'aquarelle. En fait, mon médium, c'est l'aquarelle. À l'aquarelle, le moins est le mieux. Voilà, c'est-à-dire que il faut anticiper, je dirais, les couleurs, parce que à chaque fois que vous posez une couleur à l'aquarelle, ça va éteindre la lumière. La lumière vous est donnée par le blanc du papier. Donc plus vous mettez de couches, plus vous éteignez cette lumière. Donc il faut anticiper les couleurs pour garder cette luminosité, parce que l'aquarelle peut être très très lumineuse. À l'acrylique, au contraire, vous pouvez effacer les couches qui sont dessous, vous travaillez en matière, et la lumière, vous pouvez la donner à la fin. Enfin, disons que à l'acrylique, le papier est une forme de palette sur laquelle vous battez sur le papier, vous sculptez parfois votre dessin à même le papier. À l'aquarelle, c'est très souple, vous voyez, c'est une petite boîte, mais il faut tout anticiper. Voilà. Et moi, j'aime en fait l'aquarelle. Enfin, en tout cas, c'est l'outil avec lequel je me sens le plus à l'aise, dont je me sers pour mes bandes dessinées depuis maintenant près d'une vingtaine d'années.
Alors, ce qui est formidable aussi, Emmanuel Lepage, dans Les Voyages d'Ulysse, c'est que il y a toutes sortes de techniques de dessin, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des esquisses crayonnées, il y a des aquarelles, il y a les gouaches acryliques de Follet. En fait, on a devant soi tout le panorama possible pour raconter une histoire. Vous les avez agencés comment ? Comme une sorte de puzzle, parce que parfois, voilà, on a l'impression que Toulet, il a juste le temps de crayonner un truc sur un coin de papier, et puis après, il y a le tableau qui arrive plus terminé. On sent une sorte de jubilation quand on voit les pages, les pleines pages ou les petites vignettes. Vous avez tout essayé, là.
Oui, je m'amuse. Vous savez, je crois que ma grande peur, c'est de m'ennuyer en dessinant. J'ai envie d'essayer des choses. Et pour moi, le croquis, si vous voulez, en voyage, a été le champ d'expérimentation. Parce que pendant très longtemps, j'ai pas publié mes croquis de voyage. J'expérimentais des choses, ça avait pas d'enjeu, c'était pas destiné à être montré. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas les utiliser aussi dans mes bandes dessinées? Par contre, dans la bande dessinée, il faut leur trouver une justification narrative. Hein. On raconte une histoire. Mais voilà, pourquoi pas raconter une histoire qui soit cohérente, même s'il y a des techniques différentes. Et dans ce livre, les Voyages d'Ulysse, il y a un récit cadre, hein, qui est celui de Jules et Salomé, de leur rencontre. Et puis, il y a un récit enchâssé, qui est l'histoire de Salomé, qui est une sorte de long flashback qui explique le parcours de notre personnage. Le personnage de l'histoire, c'est Salomé. Et là, j'ai essayé d'expérimenter quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est de travailler sur du papier coloré. C'est un papier très fin, c'est assez compliqué à servir. Et puis, je me suis servi de gouache. Alors, je vous disais tout à l'heure que je ne savais pas me servir de la gouache, ce qui est vrai. Mais il y a seulement deux choses que j'ai apprises de façon extrêmement scolaire à la gouache. Deux choses que je sais faire des dégradés et des aplats. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais utiliser le peu de possibilités que j'ai à la gouache pour ce livre-là. Donc, ce qui permettait, en fait, d'avoir à la fois le fond du papier, mais puis une couleur qui pouvait être une couleur complémentaire pour donner de la profondeur à l'image. Au début, je suis parti là-dedans, on pensait faire à peine une petite trentaine de pages autour de Salomé. On en a fait maintenant près de 200. C'était pas une technique que j'avais élaborée pour durer sur autant de pages. Donc, il a fallu essayer de renouveler le plaisir. Mais, oui, vous avez raison, c'est un puzzle, en fait, ce livre. Alors, je pense que Sophie avait sans doute une idée plus précise en ce qui concerne l'histoire de Salomé. Elle savait où elle allait l'amener. Mais on a nourri petit à petit le personnage, on l'a complexifié. Les personnages sont devenus peut-être plus humains, plus attachants. On essaie de sortir, je dirais, des stéréotypes au fil des pages. Et jusqu'à peut-être 15 jours avant la fin du livre, je ne savais pas combien de pages allait faire ce livre, comment on allait l'organiser. Puis parfois, il y a des sortes de miracles, des pages qui vont bien ensemble, alors qu'elles ont parfois été faites à un an, deux ans de distance peut-être. Puis on se dit, ben voilà, c'est ça, on a trouvé.
Ah, par où débuter ? Par où continuer ? Et comment jusqu'au bout te compter les souffrances dont m'ont comblé les dieux, les habitants du ciel ? Mais je veux commencer en vous disant mon nom, que vous le sachiez tous. Et si le jour cruel m'épargne, que pour vous je sois toujours un hôte, si loin que je demeure. C'est moi qui suis Ulysse, oui, ce fils de Laërte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte aux nues la gloire. Ma demeure d'Ithaque est perchée comme une aire sous le Nérite au bois tremblant, au beau profil. Des îles habitées se pressent tout autour, mais au fond du Noroît, sur la mer, mon Ithaque apparaît la plus basse, laissant à l'est et au midi les autres îles. Elle n'est que rocher, mais nourrie de beaux gars. Cette terre, il n'est rien à mes yeux de plus doux. Oui, là-bas, Calypso, au creux de ses cavernes, m'enfermait et brûlait cette toute divine de m'avoir pour époux. Au manoir d'Aïaïe, la perfide Circé voulait pareillement me garder pour époux. Jamais, au fond de moi, mon cœur ne consentit. Oh non, rien n'est plus doux que patrie et parents. Dans l'exil, à quoi bon la plus riche demeure, parmi des étrangers et loin de ses parents ?
Emmanuel Lepage, je le disais, vous avez travaillé avec Sophie Michel au scénario de cette histoire des voyages d'Ulysse, mais ce n'est pas la première fois. Vous aviez fait également les voyages d'Anna ou les filles. En fait, est-ce que vous travaillez en parallèle, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez décidé de faire les voyages d'Ulysse, vous faites vos dessins, elle fait son scénario, et ensuite on adapte ou vous illustrez, ou elle rajoute des parties parce qu'il y a des esquisses, des dessins qu'il faut intégrer. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux là-dessus?
C'est assez difficile à répondre. Quand nous avons fait au Les Filles ensemble, Sophie m'a présenté un scénario déjà écrit que j'ai dessiné. Donc là, c'était clair. Pour les voyages d'Ulysse, je suis allé la chercher parce qu'on avait fait les voyages d'Anna une douzaine d'années auparavant. Et je pense que je lui ai dit, écoute, ça va être la même chose. Ça va faire peut-être 80 pages et quelques textes à écrire. Bah finalement, on s'est pris au jeu. Je revenais à chaque fois avec des dessins différents. Je disais, et là, on pourrait aller là-bas, et on pourrait aller ici. Je pense que parfois, ça doit être un petit peu déstabilisé. Mais je pense qu'elle y allait en confiance. Je pense qu'elle est tellement, pénétrée du récit d'Ulysse, hein, c'est quand même quelque chose qu'elle connaît bien. Enfin, elle était prête à me suivre dans cette aventure et elle a donné une dimension au personnage. Vous savez que quand je lui parlais des idées que j'avais du livre, c'était de façon, je dirais, très impressionniste en fait. Hein. Je disais, il y avait ça. Enfin, je disais, non, ça c'est mauvais. Non, ça c'est nul, ça c'est tard quand même. Mais je pense que tous ces trucs-là nourrissaient, je pense, son imaginaire. Elle me proposait des choses et j'étais bouleversé. Je trouvais ça juste, vraiment, vraiment bien.
Mais en fait, Emmanuel Lepage, dans la mesure où, puisqu'il y a une quête, il cherche à retrouver les tableaux disparus d'Amon Casas, le bateau va faire des escales dans des ports que vous avez complètement recréés, pas du tout une documentation géographique précise, mais là, laisser libre cours à l'imaginaire. Mais justement, on se dit qu'en fait, vous auriez pu faire, je sais pas, 10 tomes, parce que c'est infini, il y a des tas de ports où ils auraient pu faire escale, vous auriez pu à chaque fois imaginer une histoire se déroulant là. J'ai l'impression que ça a été plutôt difficile de se réfréner, ou de couper, ou de se restreindre pour qu'on puisse tenir le livre dans deux mains.
C'est vrai, oui, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est assez juste. Je crois qu'il y a un moment donné, on arrête. On était déjà à plus de 250 pages. Oui, bien sûr, on aurait pu continuer. On a envie de continuer le voyage, nous, enfin, en tant que auteur de ce livre-là. Mais voilà, bon, il y a un moment donné, on dit on arrête. Mais le plus important dans ce livre, je dirais, c'est peut-être moins. L'histoire de Jules et Salomé, qui est le présent du livre, que l'histoire de Salomé en elle-même. C'est Salomé, notre Ulysse. Ce personnage qui n'aspire qu'à rentrer chez elle, c'est son chemin qui, pour moi, importe. C'est une femme qui est capitaine de navire à la fin du 19e. Vous voyez, donc elle est confrontée quand même à un univers masculin contre lequel elle doit lutter, doit s'affirmer. C'est ce personnage de femme qui nous a porté.
Un Ulysse au féminin, elle s'appelle Salomé. Il était évident qu'il fallait en parler avec sa créatrice, Sophie Michel. Bonjour, bonjour Elsa Denac.
Bonjour.
Vous avez rencontré Sophie Michel qui vous a parlé de cette aventure.
Il faut qu'elle nous raconte sa version des choses. Donc, ils sont complices avec Emmanuel Lepage depuis longtemps. Oléphie, les voyages d'Anna et d'Ulysse, leurs enfants. Emmanuel dessine, Sophie écrit et ensemble, ils construisent l'histoire. Écoutons la version de Sophie.
Racontez-nous votre première rencontre avec les dessins d'Emmanuel Lepage. Je devais être adolescente, genre 14-15 ans, et j'ai lu les épisodes de Névé. Et j'avais été fascinée par le dessin, par l'expression dans les yeux, le reflet des sentiments dans un dessin. Je n'avais jamais vu ça. Je pouvais rester vraiment en contemplation sur ces dessins, et c'est vrai que ça le fait encore. Donc il arrive à ça avec deux coups de crayon, enfin je sais pas comment il fait. C'est très saisissant quand Emmanuel se met à dessiner ce que j'ai écrit. J'ai dans ma tête une vision des choses que j'essaye de décrire case par case avec les plans, je lui donne une idée des plans. Et en fait, lui, il adapte ça quand même assez librement, mais c'est toujours dans le respect de ce que j'ai imaginé. Et en fait, c'est toujours mieux que ce que j'ai imaginé. Moi, je me fais un peu un film dans ma tête. C'est pas des images fixes, mais les images fixes de bande dessinée qu'il crée sont toujours plus puissantes que celles à quoi je m'attendais. Je mets par exemple planche numéro 1, case 1, je donne le plan et je décris ce qu'on voit. Je me suis laissée vraiment emporter par l'histoire de Salomé. On est parti de 30 planches et on arrive à plus de 200 planches. Voilà. Mais c'est un peu le hasard. C'est les personnages qui se sont imposés, on va dire. Pour les voyages d'Ulysse, c'était particulier, puisque préexistaient les voyages d'Anna, qui avaient été faits un peu pour notre petite fille, Anna. Et son frère Ulysse avait demandé son livre. Donc, on va dire que l'idée du livre préexistait à tout. Et ensuite, pour ce qui me concerne, ma partie, c'est-à-dire plutôt l'histoire, une des contraintes, c'est qu'on savait que ce livre allait s'appeler Les Voyages d'Ulysse. Donc, évidemment, quand on a un livre qui porte ce titre, on ne pouvait plus faire l'impasse sur l'Odyssée. Et j'ai commencé à transpirer parce que ça semblait être difficile, une adaptation ou une transposition de l'Odyssée. Et moi, j'avais envie de l'histoire d'une femme, un peu de caractère. Et du coup, moi, ce qui m'est venu en premier, c'est l'envie de raconter l'histoire de cette femme, de cette petite fille qui devient une femme. Pour Salomé, j'avais en moi l'idée d'une panthère. Donc, quand je pensais à Salomé, je pensais à une panthère. Ce que j'ai en tête, c'est des intentions. Mon intention première, c'était une petite fille en butte à une autorité trop forte et qui essaye de faire son chemin, de tracer sa route, de trouver sa liberté en dehors des sentiers battus. C'est très présent dans l'Odyssée d'Homère. C'est un texte qui s'adresse vraiment à l'adolescence. On a l'énergie du voyage, l'énergie du désir, le désir qui est toujours devant. Et ça, c'est très adolescent. Et c'est pour ça que je pense que ça peut parler à notre fils, comme je pense que ça parle à pas mal d'adolescents. L'Odyssée, oui, c'est la promesse de quelque chose en avant. Ulysse devient une femme. En quoi cela était-il important dans votre histoire ? C'était l'enjeu, en fait, de faire un Ulysse au féminin, pour bien dire que le héros n'est pas toujours masculin. Et c'est quelque chose qui est important parce que on a une image des héros souvent ancrée sous le signe du masculin. Les super-héros sont souvent masculins. Et on a des personnages féminins qui sont des faire-valoir, ou qui sont des à-côté, ou qui parfois peuvent être aussi des à-côté perfides. Donc j'avais envie qu'une femme porte cet héroïsme. Et ce qui va avec, c'est-à-dire les héros ne sont pas parfaits. Dire Ulysse est un menteur. Il se débrouille tout le temps en disant des mensonges, des histoires. Il pleure pendant des heures au bord de la mer, après sa femme, son retour, etc. Enfin, il n'est pas toujours héroïque. Et on l'accepte bien d'un homme. Et j'avais envie qu'il y ait quelque chose de similaire avec Salomé. Elle n'est pas toujours aimable. Elle est un peu guindée. Elle est rude. Et en même temps, elle va jusqu'au bout.
Posez une question à Emmanuel Lepage.
Est-ce que ça le satisfait qu'on présente un personnage féminin fort à notre fils ?
Emmanuel Lepage, on vient d'entendre la question que pose Sophie Michel par l'intermédiaire d'Elsa Denac. Mais en fait, moi, je la complète. C'est-à-dire que vous avez voulu faire un livre pour votre fils Ulysse. Ça s'appelle Les Voyages d'Ulysse, mais en fait, c'est Les Voyages de Salomé. Et comment il a pris ça ? Parce que, voilà, il est un peu floué, du coup.
C'est vrai que cette question me prend un peu de cours.
Vous n'y aviez pas songé avant.
Ah non.
Ça vous semblait tellement évident, mais c'est bien ça.
Oui, enfin, pourquoi Ulysse devrait être obligatoirement un homme, enfin.
Alors, qu'est-ce que le fait d'avoir une femme dans cette histoire comme héros principal, qu'est-ce que ça apportait de plus ? Est-ce que pour vous, par exemple ?
C'est aussi une invitation à accueillir ce que l'on est, nous, hommes, dans notre féminité aussi. Enfin, ce que dit Sophie, c'est vrai que, qui m'a fait sourire, c'est quand Ulysse dit, il pleure beaucoup. Je trouve que ça, c'est peut-être ça qui humanise le personnage d'Ulysse. Mais, pourquoi pas? C'est peut-être ça ma réponse.
D'autant plus que vous n'avez pas du tout masculinisé la dénommée Salomé, le capitaine de l'Odysseus. Et même, de temps en temps, on se dit qu'elle ressemble tout à fait à une femme d'aujourd'hui. Elle a des bottes avec des talons, ce qui sur un bateau en bois n'est peut-être pas très recommandé, surtout dans la tempête.
C'est pas juste.
Et puis, elle a un col roulé. En fait, vous vous êtes laissé une liberté absolue dans les dessins, dans la recréation des paysages de l'époque. Et puis, dans ce personnage de capitaine qui ressemble assez à une ravissante créature d'aujourd'hui.
Oui, ça c'est peut-être le fait que dans ce genre de livre, j'anticipe pas tellement. En fait, je pars un peu à l'aveugle, effectivement. Mais ce que vous dites, c'est très très juste hein, sur les talons des bottes. Effectivement, c'est pas malin du tout.
C'est joli au dessin, mais c'est pas pratique.
Non, bah c'est.
Il y a des choses comme ça qu'on note de temps en temps en tournant les pages. Moi, j'en ai remarqué une parce que j'aime bien la Bretagne et j'ai trouvé une barque bretonne dans le port d'Istanbul quand même. Ça, c'est assez sympa. Pour ceux qui aiment la Bretagne, ça fait plaisir.
Oui, j'avoue que je suis pas très rigoureux là-dessus. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je précise quand même, parfois je l'étais davantage. Mais en fait, ce qui m'importe, c'est pas toutes ces choses-là. Je fais pas des livres pour des gens qui vont regarder tous ces petits détails. Est-ce que ça existait vraiment à cette époque? Bon, j'essaie d'éviter les choses grossières. Ce qui m'importe, c'est le souffle de l'histoire. Ce qui m'importe, c'est les personnages. C'est qu'on y croit. C'est ça qui est pour moi important. Donc, l'essentiel de mon travail, de l'énergie que je vais mettre, c'est dans leur façon de bouger, leur façon de regarder. C'est ça que j'essaie de traquer. Ma vérité, elle n'est pas de savoir effectivement, bon, est-ce que c'est vraiment les bottes de l'époque ou. Mais c'est de chercher l'expression juste. Vous voyez, on est assis à la table là et nous avons l'un et l'autre une façon de nous asseoir qui nous appartient et qui nous dit de l'état émotionnel dans lequel nous sommes et qui n'appartient qu'à vous et moi. Ben voilà, moi dans le dessin, c'est ça que je traque. C'est-à-dire, c'est cette expression qui ne peut être que la vôtre. J'espère que l'on croit à mes personnages parce que voilà, ce n'est pas une attitude stéréotypée, codée. Je pourrais faire appel à des codes, mais autant que faire se peut, j'essaye de trouver quelque chose qui n'appartient qu'à cette personne-là. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on croit au personnage, finalement, tout le reste, la barque bretonne ou les bottes à talons, ça n'a pas tellement d'importance.
Hey. Abitando il mio mondo e bevendomi un pascià. Tutto quel che passa dentro, come una jacuzzi. Abitando il mio zedam, abitando, conversando il mio zedam, conversando, ragionando il mio zedam, ragionandola così. C'è una bella prosa povera, visa italiana, che sole vola in coppa all'oscurità per noi, che so che qua, e gli indiani capito, vivo con va, e mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la incazzatura di una metropoli. Adesso sento una che gira, gira, girare il rotolo munna con messa da rindanù. Carina, a spintoni nell'attualità, nell'attualità come a spintoni in mese tram, ma non mi prego per tutto, guardi dall'occhio e vega una lampe cretineria, l'occhio era fantasia, ma dici no, che sei una vera cretineria, cretineria, dice il matador. Dice il venditor che tronco un pezzo in inglese, tronco un pezzo fama portoghese. Non me ne importa, mister, non me ne importa, mister. We'll be right back.
la fama spersa, spersa la incazzatura di una metropoli. A Rosiende gira la grande brella e ride, prende questo che ne ha venduti mille tutti uguali. Che è un successo, no? Mister, nella grande brella, nella grande ruota che gira, mio zoom, a spintone nell'attualità, a spintone in mio dramma.
Emmanuel Lepage, ces bouffées d'air que l'on entend passer dans le studio, ce sont les vents des terres australes, parce que je voulais quand même qu'on aborde ce sujet avec vous, puisque on vous connaît précédemment pour avoir publié en 2011 Le Voyage aux îles de la Désolation, et puis en 2014 La Lune est blanche, c'est un voyage en terre à Delhi, et là, alors pas du tout place à l'imaginaire, les dessins sont documentés pour cause, vous êtes parti là-bas avec votre frère pour La Lune est blanche, qui faisait des photographies. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir dans des terres aussi inhospitalières? Bon, vous avez pas mal arpenté la planète, je le disais tout à l'heure, mais là, qu'est-ce qui vous a attiré dans ces dernières terres vierges? On peut dire, on dit vierge avant de lire vos livres, parce qu'on se rend compte qu'après, la neige, elle a goût de gazoil. Et donc, c'est pas si vierge que ça. Est-ce que c'est le désir de connaître ce qu'on ne connaît pas tous? Est-ce que c'est aussi aller se chercher là-bas, voir ce dont on est capable? Pas seulement en tant que dessinateur, mais en tant qu'être humain?
Vous savez, je pense que si j'ai voyagé, et souvent seul d'ailleurs au début, c'est parce que ça me faisait peur. Je me disais, je suis pas capable de le faire, alors je vais essayer. Il y avait un petit peu de ça. Ça me terrifiait. Je crois qu'aujourd'hui, l'excitation, elle est plus forte que la peur. Quand je suis parti à Tchernobyl, par exemple, je crois que c'est après que je me suis dit, c'est peut-être dangereux. C'est en voyant réagir mes proches que je me suis dit, effectivement, il faut peut-être être un peu prudent en allant là-bas. Les terres australes, je crois que ce qui m'excitait, je pense, le plus, c'était de partir un mois sur un bateau. Ça, c'était un rêve. Et en plus de partir au bout du monde, dans des endroits où on ne peut justement accéder qu'en bateau. Quand je dis le bout du monde, pour moi, je me figurais les récits anciens. Je pense que j'ai construit mon imaginaire dans les récits de voyage. Et les Jules Verne, ça m'a vraiment profondément habité. Et puis, bien entendu, la bande dessinée. Donc voilà, c'est-à-dire que j'allais vivre en vrai les histoires que je racontais ou que je me racontais enfant. Aller dans les terres australes, vous savez, il y a un moment, je crois, qui est sans doute un des moments les plus incroyables de ce voyage, c'est le moment où on franchit la ligne de convergence, c'est quand les eaux chaudes de l'océan Indien rencontrent les eaux froides de l'océan subantarctique. Et là, il y a une brume qui se crée sur la mer. Et vous êtes dans un bateau, loin de toutes les lignes maritimes, ça fait pas de bruit, vous savez, c'est un son très très mat. Et le bateau glisse là-dedans, la température chute de 10 degrés en quelques heures, et l'eau change de couleur, elle passe d'un bleu indigo à un bleu métallique. Et là, on est dans les récits, vous savez, quand la terre était plate, il y avait les nuées, et puis derrière les nuées, il y avait les monstres marins. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand on franchit et qu'on arrive donc sur l'archipel de Crozet, île déserte qui est peuplée effectivement de créatures fantastiques que sont les manchots, ou les, particulièrement les éléphants de mer, les pétrels, les albatros. Finalement, c'est très peuplé en fait par tous ces animaux. Puis bien entendu, et c'est ça qui va, je pense, me toucher le plus, ça va être cette communauté des terres australes. C'est ce monde fait de scientifiques, de techniciens, de personnel technique qui font vivre ces bases de bout du monde et qui d'ailleurs sont complètement coupés du monde pendant plusieurs mois par an, parce que on est au-delà des 40e rugissants, les conditions de mer sont telles, température et de vent, elles sont complètement isolées pendant plusieurs mois. C'est une autre vie qui se crée là-bas, c'est une vie ensemble, c'est une vie en communauté, où en fait la survie dépend de la solidarité entre les individus, où l'argent ne circule pas, et c'est aussi une communauté de savoir. C'est des gens passionnés et donc passionnants à entendre, parce que passionnés par ce qu'ils font. Pour moi, c'était la découverte du monde de la science. C'était un monde que je connaissais pas du tout, et je me suis rendu compte que c'était aussi des raconteurs d'histoires.
D'ailleurs, dans ce livre, La Lune est blanche, on se rend compte que dessiner cette communauté humaine, chaque personne a droit à sa vignette, quelques lignes d'explication, mais le dessin de la communauté des hommes et des femmes ensemble, dans cette mission scientifique, le mot communauté est quelque chose qui revient souvent sous votre plume et puis dans la façon que vous avez de raconter ces histoires. C'est quelque chose d'important pour vous, retrouver ça, faire communauté?
C'est troublant ce que vous me dites, parce que je me suis rendu compte effectivement que dans mes livres, je revenais souvent là-dessus. J'ai beau faire des histoires qui se passent au Nicaragua, sur un bateau, dans les terres australes, je me rends compte que finalement, je retombe sur les mêmes thématiques. C'est quand même assez étrange.
C'est plutôt rassurant.
Oui, mais je pense partir ailleurs.
Et puis, mais en fait, vous partez avec vous-même.
Ben voilà, c'est ça qui est parfois troublant. Effectivement, alors que je pense partir dans les terres australes, où je vais décrire des paysages extraordinaires, la vie en mer et des animaux fantastiques, finalement, je me dis, ben non, finalement, ce que je vais raconter, c'est les hommes qui vivent là-bas. Et pourquoi je vais raconter les hommes qui vivent là? Parce qu'effectivement, c'est cette vie ensemble qui m'intéresse. Pourquoi la communauté? Parce que j'ai vécu en communauté quand j'étais enfant.
Vous êtes un peu jeune pour être 68 ans.
Ben c'est j'étais enfant justement, mais c'était même avant 68. Et c'est quelque chose qui, je pense, est fondateur dans ce que je suis. C'est un projet d'ailleurs d'histoire que je porte depuis plus de 20 ans maintenant.
C'est une nostalgie?
Oh, il y a, je pense, oui, une forme de paradis perdu. Oui, ça c'est quelque chose qui est. Je pense que si j'ai dessiné, c'est pour retrouver ça. C'est pour retrouver ce moment où j'avais l'impression que l'imagination était au pouvoir d'une énorme liberté, où il suffisait de rêver les choses pour qu'elles se réalisent. Enfin, je pense que ma force à l'époque, parmi les enfants que nous étions, c'est que j'entraînais les autres dans mon imaginaire et dans mes histoires. Ça plaisait pas du tout aux autres parents, d'ailleurs, parfois. Et je crois que finalement, en quittant ce monde, cette communauté, que j'ai vraiment vécu comme un déchirement, enfin, j'étais jeune, hein, j'avais 9 ans, mais c'était un moment terrible. Et que je pense que, à travers le dessin, j'essaie de retrouver, j'ai continué à raconter des histoires. Voilà, en partant dans ces terres australes là, eh bien, je retrouve quelque chose d'extrêmement chaleureux. Vous voyez, c'est un univers dans lequel je me sens bien. Vous voyez, je pense qu'une des choses qui me touche le plus, c'est qu'après avoir fait ce livre là, Voyage aux îles de la désolation, j'ai eu plein de retours en fait, de évidemment des gens que j'avais rencontrés au cours de ce voyage, mais aussi de gens qui avaient été dans des missions très très longtemps avant. J'avais rencontré un vieux monsieur qui s'appelait Jean de Ramon, qui lui avait participé à la création de la base de l'île d'Amsterdam dans les années 50. Et ces gens m'écrivaient, me parlaient, ils se retrouvaient dans ces mots. J'étais avec eux, voilà, j'étais parmi eux. Je faisais, même si j'ai pas hiverné, hein, j'ai l'impression de faire partie de ce monde polaire, enfin d'avoir été d'une certaine manière accepté dans ce monde polaire. Et je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui me touche le plus.
Emmanuel Lepage, oui, c'est une aventure humaine. Et c'est quelque chose qui justifie le voyage, parce que vous seriez allé là-bas juste pour dessiner des animaux fantastiques. Mais là, vous racontez quelque chose qui nous relie aussi au siècle passé, parce que depuis les premiers explorateurs jusqu'à aujourd'hui, quelque chose est resté de cet esprit-là, de cet esprit de dépassement de soi et surtout d'œuvrer pour la communauté humaine, parce que toutes les nationalités se retrouvent là-bas.
Oui, c'est ça. C'est des gens qui vont là-bas pour quelque chose qui les dépasse. Et c'est peut-être ça qui fait communauté, en fait. Hein. C'est qu'ils vont là-bas pour la science, pour la connaissance, oui, pour notre humanité. Et c'est ça que je trouve très, très beau. Effectivement, il y a un dépassement de soi de façon individuelle, mais pour quelque chose de plus fort. Vous savez, il y a des gens qui vont dans les bases pour suivre une mission, un programme dont ils ne sont pas à l'initiative et qui vont être poursuivis par d'autres. Et voilà, ils sont les maillons d'une longue chaîne comme ça. Je trouve ça très beau parce qu'en plus ils font des choses incroyables dans lesquelles ils vont pas s'en prévaloir. Hein. Je pense qu'ils le vivent pas comme des exploits. Ils ne supportent pas d'ailleurs qu'on les appelle des héros polaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Parce que voilà, pour eux, ils font leur travail tout simplement. Mais vous savez, j'ai traversé l'Antarctique au volant d'un tracteur. Pendant 15 jours, on était complètement coupés du monde. On était les seules espèces vivantes à des centaines de kilomètres à la ronde. Et j'étais avec des gens merveilleux. Il fallait mener notre mission à bien, arriver à bon port, et puis trouver des solutions par nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Et cette capacité que ces gens avaient d'improviser à chaque fois qu'il y avait un problème qui se posait, un accident dans le parcours, il dit on va trouver la solution, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Ça m'a, je pense, beaucoup appris dans ma pratique, je dirais même, de la bande dessinée. Quand on se retrouve parfois dans des impasses ou narratifs, des choses qui nous tombent dessus, je me dis bon, il y a une solution, il faut trouver la solution. Évidemment, lorsque je suis dans ma création, c'est bien moins important que lorsqu'on se retrouve au milieu de rien par moins 40. Mais c'est des belles personnes, quoi. Enfin, je pense que dans mes histoires sur les terres australes ou sur l'Antarctique, je pense que c'est effectivement, je pense, une déclaration d'amour à ces gens-là, quoi, à ce monde-là que j'ai découvert tard, mais qui m'a bouleversé.
Voilà, et c'était un livre donc qui est paru en 2014, qui s'appelle La Lune est blanche. Mais aujourd'hui, nous parlions surtout des Voyages d'Ulysse qui vient de sortir, réalisé avec Sophie Michel et René Follet, qui viennent de paraître aux éditions Daniel Maguen. Merci infiniment, Emmanuel Lepage, d'être venu nous voir.
Merci.
Bon voyage au pluriel, bonne route. Et bien sûr, on va se quitter en reparlant d'Ulysse avec Jean-Pierre Vernon.
Comment on peut expliquer qu'on meurt? Et le texte, d'une certaine façon, nous répond, oui, vous êtes comme des feuilles, rien du tout. Outinos, outis, rien, vous comptez pas. Vous serez balayé, vous avez vécu, vous avez... Mais l'homme, c'est pas seulement des individus qui, comme les bêtes, ont une évolution biologique et finalement disparaissent. Et on se dit, ben quoi bon? Non, non. Les hommes, c'est aussi l'histoire humaine, la construction étonnante par les hommes de longs textes qui racontent ce qui s'est passé, le racontent différemment de ce qui s'est passé, mais ils font avec ça quelque chose. Des religions, des sociétés, la poésie, la danse, la tragédie, tout. L'homme est histoire, civilisation, société, culture, fabrication, ouverture, invention, transformation, autant que malheur, bonheur personnel, soi et les autres.
Et bien voilà, l'humeur vagabonde se retire jusqu'à dimanche prochain du moins, mais bien sûr France Inter demeure, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bonne journée de dimanche à l'écoute de France Inter.